Ok, le Rav ici rappelle trois endroits où c'est pas obligatoire, mais ça vaut la peine de compter avec les doigts. C'est tout, ce sont trois endroits qui sont dans la Korbanot. Il y a un moment où on dit Miel kamocha nosa avon bavar pesha leshel nachalato alor alor hatzit lelapo kachfet chesed alhu yashuv yachamna chamo shavatam betashich bintzulotian kol chatotam. On le dit tous les matins dans les Korbanot. Ce sont des versets. C'est le même verset qu'on dit au Tachlir, à Rosh Hashanah. Ils correspondent aux 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Hanun, Erech, Rapaim, Hasel, Emet. Donc c'est Hasel, Afin, Nosa, Avon, Afesh, Avachata, Benake. D'accord ? Il y a 13 attributs de miséricorde d'Hachem qui sont écrits dans la Torah et qui ont été repris par le prophète. C'est le prophète Micha. Et il dit Mi El Kamocha, Nosa, Avon, Bover, Pesha, Lechna, Chalasso, Lohazig, Laad, Apo, Kahafet, Chesaru, Yashu, Achamon, Rembo, Shabotem, Tashir, Bim, Sulotiam, Kol Hatotam, Titanem, Yakov, Hazel, Bam, Shabbat, Alabotanem, Mekedem. Il y a 13. Ça vaut la peine de les compter avec les doigts. Pourquoi ? Parce que chaque chose qu'on dit, chaque fois qu'on compte une chose avec les doigts, ça, d'abord, ça joint notre parole à l'acte. Il y a trois parties en nous. La fâche, neshama. La pensée, c'est un neshama. La parole, c'est le ruach. Et l'acte, c'est nefesh. Quand tu parles, tu fais actionner neshama et ruach. C'est bien de joindre aussi l'action. Comme ça, il y a une union des trois. Deuxième endroit où il recommande de faire cela, c'est quand on dit les 11 sortes d'épices qu'il y avait dans la Ktoret. La Ktoret, c'est une prière extrêmement puissante. Le Zohar dit que si on se rendait compte de ce qu'elle était puissante, on mettrait des couronnes sur chaque lettre, des couronnes d'or sur chaque lettre. C'est extrêmement, extrêmement puissant. C'est une sgoula aussi, c'est-à-dire sur le chemin, pour ne pas regarder des filles. S'il y a des embouteillages, il paraît que c'est une sgoula, d'accord. C'est pas marqué dans la Gemara, dans les embouteillages. Il n'y avait pas encore d'embouteillage à l'époque, mais c'est un truc qui dégage, qui enlève les forces négatives. La Ktoret, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Mont Sinaï, alors les anges n'étaient pas d'accord de lui donner la Torah. Il y a une bagarre entre les deux, une dispute, et à la fin Moshe a gagné et tous lui ont donné un cadeau. L'ange de la mort, il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu, c'était la Ktoret. La Ktoret, c'est-à-dire comment on fait la Ktoret, parce que la Ktoret est là un pouvoir d'arrêter l'ange de la mort. Preuve en est que lorsque Hachem a envoyé une épidémie contre Israël, alors c'était après l'histoire de Korach. Les Israélites sont venus se plaindre à Moshe que l'Otam nous l'Igvot, on meurt sans cesse. On meurt par-ci, on meurt par-là, fini. Hachem, il s'est mis en colère et ça a commencé encore une révolte. Il a commencé une épidémie terrible. Alors, Moshe a ordonné à Aaron, viens, va vite prendre la Ktoret et cours. Parce que Trilanagef a commencé déjà l'épidémie. Et Aaron, il court avec le Ktoret, donc avec l'encens comme ça, l'encensoir, et il est mort, les gens commencent à tomber, tac, 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 il s'est mis, tac, hop. Et le dernier mort s'est arrêté, et les autres sont restés vivants. Et tout le monde a vu que grâce à la Ktoret, donc, il y avait ici un Sgoula, une combine contre le mal. Surtout que l'Israël disait que la Ktoret, c'est ce qui amenait la mort. Pourquoi ? Parce que les deux fils d'Aaron sont morts en amenant une Ktoret. Ils ont amené la Ktoret au sanctuaire, et là, un feu est sorti du ciel et les a tués. Donc ils ont dit, ce truc-là, c'est un truc dangereux. Au contraire, là, ça montrait que ça sauvait. Chazal ont institué de dire plutôt ma Ktoret avant la prière, et après la prière de Shacharit, aussi avant la prière de Mincha. Pourquoi ? Parce que comme je viens de dire, le fait de lire cela est un peu comme si on amène la Ktoret, et c'est un pouvoir extraordinaire d'éloigner les forces négatives. Donc ça éloigne les forces négatives avant qu'on prie, pour déblayer le chemin, pour qu'on puisse monter, la prière puisse monter, et après qu'elle est montée, les forces négatives, elles veulent s'attacher, il y a un flux qui redescend, elles veulent s'attacher, recevoir de ce flux-là. Alors on dit la Ktoret de nouveau pour les empêcher. Rabbi Sambachou me pose la question, pourquoi on ne dit pas la Ktoret aussi après Mincha ? On dit avant, on ne dit pas après Mincha. Il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que normalement, ça aurait été bien aussi de le dire après. On ne le dit pas, là, c'est comme ça qu'on ne le dit pas. Mais néanmoins, c'est clair que cela a une très grande importance. Quand on lira les 11 sortes d'épices qu'il y a dans la Ktoret, Alors c'est bien de compter Hatzori vatziporel vachalbana balbona mishka shivim shivimane mor uktsiyam shebo yotchanel vachakom mishka shisha asar shisha asar mane kosht shisha asar kilefa shulak ilamon tisha. Ok, on peut dire ce qu'on veut sans cesse. C'est mieux de vivre la Gemara, mais ils sont sur le chemin, vas-y, tu le dis sans cesse.
Mais c'est quelque chose qu'on est dans le Beit HaMikdash, c'est quelque chose
que ne se faisait que tous les jours, pendant Shachrit, que dans le Saint. Dans le Saint, il y avait un Mizbeach HaZahav, le Mizbeach, l'autel d'or, qui faisait 49 cm de large, sur 49 cm comme ça, et 1 mètre de haut environ, 98 pour être précis, d'accord, en or, et il y avait donc des braises dessus, et tous les matins, le Kohen Gadol rentrait et faisait la Ktoret. Que à Yom Kippour, il y avait une autre Ktoret spéciale, le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, comme on a parlé l'autre jour. C'est ce qu'on dit de la Ktoret, Tanou Rabbanan, Pitou Maktoret, enseigner les sages, Pitou Maktoret Ketsad, comment est-ce qu'on faisait la Ktoret? Shosh Motishim Mishmona Manim Ayuva, il y avait 368 mesures, 365 par rapport au jour de l'année, l'année solaire, plus 3 qu'on utilisait pour Yom Kippour. On faisait Bam Mitzot Daka Minadaka, soit Mitzot Daka Minadaka, pour celle de Yom Kippour, on la moulait une deuxième fois, pour que ce soit vraiment très 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 bien moulu. Et on rentrait de cette. On prenait de ces trois mesures-là, il prenait une louche. D'accord ? Bon, c'est la peine d'apprendre une fois le texte qu'on dit pour pas que ce soit une sorte d'incantation sans aucun sens. Et comme j'ai dit, c'est bien de joindre aussi l'action. C'est l'action de l'acteur, est-ce que bon frac en comptant. Il est bien aussi de faire cette action de compter et de penser aussi, quand on dit les sortes d'épices qu'il y avait dans la Ktoret, qu'on le dit dans le verset de la Torah. C'est-à-dire que quand on dit plutôt la Ktoret, on dit deux fois. On dit les versets de la Torah qui ordonnent cela, puis après, enseigner les sages, comment c'est la Ktoret, c'est déjà l'explication. C'est une braïta, d'accord ? C'est une braïta dans le traité Kretout, dans le traité Kretout, qui explique comment c'est la Ktoret. Les versets sont le Merchem el Moshe, Karcha Samim, Nataf, Ushrel, Vechalbana, Samim, Ulvona, Zaka. Bakvadiye. Ok, ça c'est un des versets où il dit exactement qu'est-ce qu'il faut prendre. Karecha samim, prends des samim. Samim sont les épices, d'accord, des drogues, des médicaments, des choses, des produits. Prends des produits. Maintenant, c'est au pluriel. Samim, c'est deux. Donc, il faut prendre des karecha samim, deux. Karecha samim, nataf, ushret, vechalbena. Ça fait cinq. Samim, on redit samim, c'est pour dire ce qu'on a maintenant, cinq, de nouveau cinq. Ça fait dix. Samim, ulvona. Et le onzième, il y en a onze. Karecha samim, nataf, ushchal, vechalbana, samim, ulvona. Ça fait 11. Donc il faut compter aussi comme ça et penser. Oui, Jackie.
Pourquoi il y en a certains qui le lisent sur un claf?
C'est bien, c'est une sgoulak, c'est bien de lire sur un claf, sur un parchemin, dire la Ktoret. Il paraît que c'est un super grand sgoulak, super grande combine. C'est bien de le faire. C'est bien aussi de lire, on va voir tout de suite, de lire la Mnatseach sur un parchemin en forme de menorah droit devant nous. C'est bien aussi. Ce coup-là, pas obligatoire, c'est bien. Oui, Jackie. Pardon, Leroy.
Pourquoi qui a écrit la Ktoret? Qui a dit que c'était bien écrit la Ktoret? Parce qu'avant, elle n'existait pas sur écrit. Qui a dit que c'était bien?
C'est. Je sais pas si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est des grands messieurs de la Kabbalah qui ont dit cela.
J'ai encore une question. Pourquoi c'est pas que les Kohanim qui la font? Alors, c'est plus ceux qui allumaient les Ktoret à l'époque.
Ouais.
Pourquoi c'est pas que les Kohanim qui lisent la Ktoret alors?
Aujourd'hui, le Kohanim était envoyé d'Israël. Aujourd'hui, on n'a plus le Kohanim, on n'a plus de temple. Alors, chacun, au lieu d'envoyer, je t'envoie toi faire la Ktoret à ma place, je peux le faire moi-même. Mitzvah boy yoter mem bishuchoy. Il y a un mitzvah de faire une chose soi-même plus que par son envoyé. Quand c'est impossible, parce que bon, un zar, un non-Kohen, ne peut pas rentrer là-bas dans le Saint, impossible, même pas dans l'Azara, il peut rentrer que pour faire le Korban Pessah, que pour amener son sacrifice, on peut rentrer dans l'Azara. La plus forte raison que dans le Saint, on ne pourra pas rentrer. Le Saint, c'est encore plus profond que l'Azara, que le Kohen peut rentrer là-dedans. Donc, c'est lui qui fait la Ktoret. Aujourd'hui, que personne ne peut rentrer dans le Saint, donc chacun le dira, et c'est une très grande segoula.
Et si c'est une segoula contre la mort, ce que vous avez dit, Ktoret? Pourquoi on le prépare à vite, comme vous avez dit avant, que c'est avant de dormir, on est plus proche de la mort, truc.
Voilà. Oui, c'est vrai. Alors il y a beaucoup de choses qui sont de très grandes goûts là, contre la mort, contre les forces de mort, les forces négatives. Elles sont tellement puissantes qu'il ne faut pas le faire. Quand c'est le jour où c'est plutôt la présence positive qui est là, alors on la renforce par ce genre de choses qui éloignent les forces négatives. Mais quand la présence négative, elle est là, et c'est elle qui a la maîtrise pendant cette période-là. Si tu commences à faire des choses contre elle, elle te ratatine. pour cela qu'il est déconseillé de donner la tzedaka le soir. Tzedaka, tzedaka, avec la tzedaka, il n'y a pas de mitzvah, dit le Gaon de Vilna, qui éloigne la mort plus que la tzedaka. La tzedaka sauvera de la mort. Quelqu'un qui est en danger de mort, ça n'a rien ni. Études de Torah, Bava Kama, c'est bien, Ktoret, c'est bien, le mieux, tzedaka.
Alors, le mieux, c'est de le faire le soir.
Alors, vu que le soir, c'est la présence justement des forces négatives de mort, faut pas les exciter avec ça. Tu commences, c'est comme si tu lui mets un pistolet sur la tombe et il va te donner une tarte.
Si je le repousse pas, quand je fais ça,
tu le repousses, mais vu que quand c'est toi qui es fort, tu le repousses, ça va. Mais quand tu es faible, tu le repousses, c'est dangereux. Le soir, c'est la période de maîtrise des forces négatives. Donc, là, t'as quand on ne donne pas se couper les cheveux, on ne fait pas les cheveux, on a expliqué
quand
quelqu'un rêve qu'il a les cheveux longs, c'est les dinim, c'est pas bien, c'est les forces de mal. Quand tu les coupes, faut penser que j'enlève maintenant des forces de mal. D'accord ? Pourquoi les non-religieux, ils ont les cheveux longs ? Parce qu'ils sont du côté du mal, donc ils poussent les cheveux derrière, ça renforce les forces du mal. Nous, on les rase ici, on fait pousser devant. Pousser devant, c'est les forces du bien, d'accord ? Donc, les déconseillés de se couper les cheveux le soir. Déconseillés de se couper les ongles le soir.
Les ongles aussi.
Les ongles aussi. Les ongles, parce que les forces du mal, elles sucent leur la lumière de vie, elles reçoivent du bout des ongles que nous avons. Ça, c'est bien de les couper, il ne faut pas les voir à ras toujours. Donner la tzedaka, pas de le soir. Plutôt maktoret, idem.
Si dans la main, on peut donner la tzedaka.
Oui, si quelqu'un est dans la main, tu donnes.
Pour eux, la dernière fois, on avait dit que brachot hasharar, on pouvait les faire après chatzot.
Alors, dès chatzot, ça change tout. Quand je dis la période négative, elle arrive à son paroxysme le soir avant chatzot. D'après chatzot, c'est au contraire la période la meilleure au niveau positif, pas total. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire la nuit, mais après minuit. Par exemple, tout ça, c'est d'après la Kabbalah, d'accord ? Tehilim, ou tout ce qui est mikra, tout ce qui est loi écrite, c'est déconseillé d'étudier la nuit.
Donc, Zdaka, on pourra refaire, Ketoat, on pourra refaire.
Ouais, tu pourras faire tout ça après minuit. Pardon ? Aussi, c'est mieux, ouais. Bon, il faut se lever à 1h du matin pour couper les cheveux, c'est pas ça. C'est la journée normale, d'accord ? C'est bien ce que c'est de faire aussi avant Mincha. C'est-à-dire qu'au niveau de la présence négative, elle est à son minimum après minuit. Et après, ça commence à monter. À Mincha, ça commence à monter plus. Mincha, Ketana encore plus. Le soir, encore plus, etc. D'accord ? Donc tout ce qu'on peut faire dans ces heures-ci du matin, c'est toujours mieux que dans le temps de Mincha. Troisième chose où le Ben Yisrael recommande de compter avec les doigts, c'est la braïta de Rabbi Ishmael des 13 lois d'exégèse. C'est-à-dire qu'on a reçu la loi écrite, cette loi écrite elle est opaque, et on a reçu des clés de compréhension comment est-ce qu'à partir de la loi écrite on pouvait en tirer la loi orale, c'est-à-dire la son pratique, qu'est-ce que je dois faire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout claires dans la loi écrite, en tout cas c'est écrit de façon trop trop grossière, c'est les gros titres, mais les détails, comment je dois pratiquer, c'est pas marqué. Comment est-ce qu'on apprend ce qu'on doit faire, d'après 13 articles d'exégèse, c'est-à-dire d'analyse du texte écrit, qui me permettra d'en tirer la loi orale. Rabbi Shmuel Omer, Bishon Shesrei Midot, à Torah Nidreshet. Rabbi Shmuel dit, par 13 mesures, façon, la Torah peut être Nidreshet. On apprend des enseignements. Mais Kalva Chomer, raisonnement fortiori. Xerashava. Deux termes qui sont les mêmes à deux endroits de la Torah. Bien Av, un principe qu'on revoit à un endroit qui sera applicable à tous les autres endroits de même façon. Bien Av, un principe avec un écrit, après avec deux écrits. Pratuklal, une chose particulière après une chose qui est générale. Klaloprak, générale après particulière. Générale, particulière, générale. Un écrit qui est sorti du klal pour renseigner sur lui. Maintenant, il est sorti l'armir, laquelle ou l'armir, etc. C'est 13 exégèses qu'il faut aussi apprendre une fois sur la peine. Vous pouvez voir l'explication de cela relativement simple après traité Brachot là-bas. Elle est l'explication de ces 13 lois d'exégèse, et aussi on a 32 autres de Rabbi Yossi Aglili. Vous pouvez les étudier là-bas, ça vaut la peine une fois dans sa vie de savoir comment ça fonctionne.
Avant d'avoir fait le traité Brachot, ils n'ont pas ces 13.
Non, ils l'ont placé dans les éditions de Gemara, ils ont placé ça là-bas. Encore avant le traité Brachot, ça existait. Après le traité Brachot, tu as un endroit où tu as les calés à Talmud, les lois du Talmud.
C'est où dans Brachot ?
Après Brachot. Après Brachot. Dans l'édition, c'est après Brachot, tu as les lois du Talmud.
J'avais un exemple de. Les endroits où c'est trop tout fou dans la Torah, on ne peut pas
énormément. Mais n'importe quoi. Dis-moi n'importe quoi, dis-moi n'importe quel verset, tu verras que ça.
Tefilin.
Alors, c'est marqué, tu les mettras en totafot entre tes yeux. Tu mets ici les tef. Alors, on a une xerashava. C'est marqué pour qu'on n'a pas le droit de faire. C'est marqué pour des kohanim. Nous, xerashava qu'on apprend, c'est pour tous les êtres humains. D'accord. On n'a pas le droit. Là, ils sont koha benenehem. On n'a pas le droit de se faire rendre chauve, ça veut dire de se déchirer les cheveux, entre les yeux. Pas beaucoup, chez moi, il y en a, d'accord. Mais genre, normalement, il n'y a pas beaucoup de cheveux ici, entre les yeux. C'est là qu'on n'a pas le droit. Non, c'est là, entre les yeux. On apprend que l'entre les yeux dont parle la Torah, c'est ici, c'est Xerashava.
On n'a pas le droit ici, c'est là, on n'a
pas le droit de se mettre. Après, on a une autre Xerashava qui nous apprend qu'on n'a pas le droit de faire de Korah sur toute la tête. Donc, que ici, comme toute la tête. On n'a pas le droit de se déchirer les cheveux maintenant pour des raisons de malheur, d'accord. Donc, t'as un malheur, tu te déchires les cheveux. Interdit, c'est un lave de Horaïta. De couper, aucun problème. Aucun problème. Ok. Un exemple de Xerashava. Encore, mais toute la Torah, c'est ça. D'accord. D'où on apprend la Brit Mila. La qui nous parle dans la Torah. C'est marqué le 8e jour que tu auras un garçon. Il mol psar orlato. Tu couperas. La moule, c'est coupé. Psar, la chair, orlato. Orla, c'est une chose qui est en trop. Traduit en français, excroissance. Chose qui est en trop. Lobe de l'oreille, ça sert à rien. Mais lequel, droite ou gauche? On est bien embêté. Hein. Il y en a un, c'est marqué. Je sais, le nez. Regardez le profil un peu accentué chez les juifs. Donc, ça vaut la peine, t'en auras beauté. Hein. Dieu a pensé à nous déjà pour le chidour quand on a 8 jours. Faire chirurgie esthétique à 18 ans, ça fait mal. À 8 jours, tac, tac, on rabote un peu. Excroissance. Hein? D'où on sait que c'est la Brit Mila?
Ramadino, on l'avait pas.
Hein? Ramadino, c'est marqué nulle part où on le fait. C'est marqué
Psaro. C'est qui a fait la Mila?
Il a fait la Mila, il a coupé le lobe de l'oreille. Avant ma vie, on ne sait pas.
Mais Mila, ça veut dire quoi, Mila?
Mila coupé.
Je te dis, il y a
coupure. Coupure.
Mets ta main sous ma cuisse, là où il y a la Brite.
Non, le texte, il dit, il a conjuré Eliezer, mets ta main sur ma cuisse et jure. C'est la Mina, c'était à l'époque, quand quelqu'un jurait, mettez la main sur la cuisse. Et alors c'est même pas marqué, alors il y a une chose de la cuisse en plus. Alors qu'est-ce que vous m'avez dit? Rachid, t'es gentil, Rachid. Rachid, il est qui vivait à Milan, mais comment on faisait avant? Où on sait que c'est là-bas?
Il n'y a pas marqué sous ma hanche, je ne sais pas quoi.
Hein?
Il n'y a pas marqué sous ma hanche.
Sous ma hanche, ok, alors on fait presque sous la hanche. Quand tu auras un gosse, tu me l'amènes, on va le couper un morceau de la hanche. Et en plus, c'est pas marqué Mila là-bas. C'est marqué mets ta main sous ma hanche et jure. Sous ma cuisse, hier, c'est cuisse. Et jure. Et alors? Où est le rapport avec la Brite Mila? Qui a dit que c'est contre la Brite Mila? Les commentateurs ont dit pourquoi? C'est la première mitzvah qu'il a fait. Il a beaucoup souffert. En faisant cela, donc il aimait beaucoup. Donc elle voulait qu'il jure sur. C'est bien de jurer sur un chef de mitzvah, sur un objet de mitzvah. C'est pas marqué que c'est la Brite Mila, nulle part. Nous, on apprend ça. Xerashava. C'est marqué Orlato à propos des fruits. Un fruit, les trois premières années après que l'arbre a été planté ou greffé, ces fruits sont Orla, sont interdits. Interdit de manger et un problème de profiter, c'est très grave, beaucoup plus grave que de manger du porc. Une ration de porc, un kilo de porc qui tombe dans 60 kilos de porc et qui sont moulus ensemble, c'est permis à la consommation. Un kilo de pommes qui tombe dans 60 kilos de pommes, un kilo de pommes orla qui date de la des trois premières années, qui est la production provenant d'un arbre durant ces trois premières années après qu'il était planté ou replanté. Aujourd'hui c'est très courant parce qu'il y a une pépinière, après on le reprend en taquant, on le replante, donc il faut de nouveau compter 3 ans, ou d'une greffe. Tous ces fruits là sont interdits, même au profit. Je ne peux pas donner ça à mon chien, même pas en faire de la couleur pour en mettre sur les murs, d'accord? On les entend même en dehors d'Israël. C'est de la banane, c'est moins grave, mais c'est interdit. Un moment, je pas tout ça à la fois, j'ai la Brite Mila. Un moment. Alors pendant 3 ans, donc interdit. 4e année, c'est pas permis non plus. Réveil, il faut prendre, c'est une sainteté, il faut le racheter ou le manger au temple. Aujourd'hui, on n'a pas le temple, donc on le rachète. On rachète et on doit éliminer la sainteté qu'il y a sur les pièces. Après, comment on fait? Je vais expliquer un autre jour. D'accord?
Ça, c'est en Israël.
Ça, c'est en Israël, aussi à l'étranger. Maintenant, c'est marqué Orlato. On apprend Xerashava, vu qu'il y a deux termes. Orla de immob sal Orlato, excroissance. De même, la orla, alors comme ça, vu que la orla des fruits provient d'un arbre qui fait des fruits, des arbres fruitiers. On ne fait pas l'orla sur un arbre qui n'est pas fruitier. De même, l'excroissance, la orla, vient d'un endroit qui fait des fruits. L'organe génital. Tu ne fais pas des fruits avec l'oreille ni avec le nez. Tu fais des fruits avec l'organe génital. De là, on apprend que ça se fait là-bas. Et là, ça va. Ok, et comme ça, et toute la Torah. Donc il y a 13 articles d'exégèse.
Comment ils se sentent les gens qui c'est que la Torah ?
Ils ne s'en sortent pas, ils disparaissent. Tous les juifs, ou non juifs, tous les juifs qui ont accepté la loi écrite et pas la loi orale, ont disparu. En tout cas, ne sont plus représentatifs du peuple juif avant que juif. Les chrétiens, les karaïtes, les réformistes, toutes ces choses, c'est des portes de sortie du peuple juif. Parce qu'évidemment, il est aisé de dire, ouais, tu prends là le fruit qui fait là, là, c'est un truc de taré, d'accord ? Ok, taré, fais autrement. Il y a 2000 ans, en plus, on aurait pu dire, c'est des tarés, moi je préfère aller avec Jésus, il est plus sympa, il est cool, les cheveux longs, la guitare, peace and love, d'accord ? On aurait pu croire. Qu'est-ce qu'il reste d'eux ? Un tatiné, ils sont juifs aujourd'hui ? Rien. Bon, ça court entier sur la portion de la loi orale. Aujourd'hui, on a une preuve comme quoi, d'abord, la Torah écrite ordonne d'écouter les grands rabbins du peuple juif. Elle ordonne, donc la loi ordonne d'écouter les détenteurs de la loi orale. Deuxièmement, on voit très bien que dans l'histoire, ceux qui ont fait autrement ont disparu. Voilà, terminé. Comment ils faisaient ? Je ne sais pas comment ils font. Ils font des trucs bizarres d'ailleurs.
Quoi, ils mettent les films ici ?
Non, les films. Bien sûr. Tu as maintenant un nouveau mouvement. Je ne vais pas en rappeler le nom pour pas que les gens aillent sur Internet. Un mouvement qui essaie de rentrer en France, très fort. Justement, qui remettent en question la loi orale. Et c'est des ordures. Il y a là-bas un Tamil Chacham, il sait étudier le type, il écrit des responsa, où il cite des grands rabbins, Rabbi Yosef, le Meir de Rishonim. J'ai eu un cas une fois, j'ai pas le temps de vous raconter ça, en deux minutes. Il y a une femme d'un avrech ici, qui est descendante de rescapés de la Shoah. Et ils ont un groupe de travail, ils se voient tous les deux mois environ, de rescapés de la Shoah, ils travaillent ensemble. Et un jour, le dirigeant, il leur a dit, OK, prochaine rencontre, on l'a fait ici, chez l'abbé Michel, dans l'abbaye, près de la Troune. Elle est religieuse. T'as tout ce qu'elle trouvait comme endroit d'être dans une église. Il n'y a aucun problème. Elle m'écrit. Moi, je renvoie à Pialacha, il y a un Rambam, Maïmonide, il dit, on n'a pas le droit d'habiter dans une ville où il y a une église. Une ville! Mais qu'est-ce qu'on va faire par nos péchés nombreux ? Nous sommes en galop, en exil, on n'a pas le droit. Alors ok, on fait comme on peut. On vit dans une ville où il y a des églises. Mais aller dans une église ? Rasse shalom, c'est interdit. Interdit grave. L'autre, il lui renvoie, le Rambam, il dit aussi que la femme doit sortir deux fois par mois de chez elle, pas plus. D'accord ? C'est vrai, il écrit comme ça. Mais il écrit à l'époque, pour des certains cas, etc. Qui, quoi, comme, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, c'est la façon d'être qu'il y avait à l'époque. On commence une guerre comme ça, il m'envoie une tchouva, une responsa, avec des rishonim, ramova, etc. C'est permis. Ah là 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 là. J'ai repoussé.
Comment vous en sortir avec un écureuil ?
Ah, il y a eu tout un débat. Mais ils ont falsifié. Ils ont falsifié.
Ils ont pu dire sur
plus. J'ai le Meiri, donc j'ai ouvert la page, il raconte. C'est vrai, le Meiri, il dit que les Akoum de les idolâtres d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux de l'époque. Lui, il en déduit que, donc, ça n'a rien à voir avec l'église que je vous raconte. L'église, c'est un truc d'idole, on n'a pas le droit d'entrer là-bas. Il récupère ça. Deux endroits, ils ont falsifié. Hamovadia, ils ont falsifié aussi. D'accord ? Maintenant, quelqu'un qui n'est pas averti, il lit ça. Ça peut étudier, voilà. Preuve que c'est permis. C'est un mouvement qui se bat contre la Torah d'Israël. Et il y a une photo sur Internet d'un de leurs rabbins, le tefillin, il est là. Pink ! Comme ça. Bien sûr. Et les femmes rabbins, et ils convertissent, c'est tout ça, Hachem Ishmor.
Oui, mais c'était tout.
Quoi, il dit c'est du judaïsme.
Oui, il dit que nous on se trompe. C'est pas la première fois ça fait 2500 ans qu'on a dans le peuple d'Israël des récréations de ces gens, des gens de l'époque, Baitos et Tzadok et Baitos, d'accord, qui enlèvent la loi orale du peuple d'Israël. Ils disent il n'y a que la loi écrite. Et les rabbins ont inventé. Très bien. Les rabbins effectivement utilisent des lois, des 13 lois d'exégèse dont on est en train de parler, et qui peuvent avoir l'air un peu, tu prends un mot là, t'en déduis. Mais ça on a reçu de Moshe Rabbeinu, de Hachem. Et Hachem ordonnait qu'on fasse comme ça, dans la Torah écrite. Tu remets en question, la promesse d'éternité du peuple d'Israël n'existe plus sur toi, n'existe plus. Et on voit que ces mouvements ne réussissent pas. À l'époque, Maïmonide se battait contre les Karaïtes. Des milliers de juifs, des dizaines de milliers étaient Karaïtes. C'est aussi exactement la même chose. La loi écrite, pas la loi orale. Il reste des Karaïtes aujourd'hui ? Il y en a. Il y a une église Karaïte à Los Angeles, une autre à San Francisco, je sais pas. Voilà, c'est pas. Personne ne sait qu'il existe, Berlal, dans le monde français, dans le monde israélien. C'est pas. Les réformistes, ils essayent, ils ont de la force, ils ont de l'argent. Mais c'est clair que c'est pas le peuple juif. Le peuple juif, Baruch Hashem, c'est ceux qui font la loi orale. Baruch Hashem, on fera les lois orales. On va expliquer la Torah d'après les 13 lois d'exégèse de Rabbi Shmuel Kor. Et il faut les lire tous les matins. On finit avec cela. Le Ben Yishraï dit que, aussi d'après la Kabbalah, d'après les secrets de la Torah, il est très important de lire cette Braïta tous les matins. Parce que ces 13 articles qu'on dit ont aussi une incidence sur les mondes. Dans tous les sidourim, mais c'est obligatoire. C'est juste avant Odou, une page avant, tu lis cela. D'accord ? Il est bien de les compter avec les doigts. Baruch Adonai, Amen.